Aujourd'hui, dans Estivalitude, Elsa Marpeau et Michel Maffezoli. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, l'émission qui titille et ne titube pas, oui parce que j'envisage une devise, hein, je vous explique. Donc Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Là, je l'avoue, je le confesse, je le susurre en tout cas, mes deux invités ce matin n'ont en apparence aucun point commun. Bon, je sais. Alors Elsa Marpeau, vous êtes l'auteur de romans noirs qui sont autant de labyrinthes visant à égarer le lecteur. Le dernier, Son autre mort, sorti en mars chez Gallimard dans la fameuse série noire, nous introduit dans un monde dominé par les réseaux sociaux. Vous êtes par ailleurs scénariste et on vous doit une série à succès que tout le monde connaît, Capitaine Marlowe. Bonjour Elsa Marpeau.
Bonjour, Christophe Bourseillet.
Michel Maffezoli, vous êtes au départ sociologue de formation, mais vous pensez surtout l'époque, ses tribus, son nomadisme, son polythéisme, sa fluidité. Bref, vous êtes l'homme du monde nouveau. Et dans La force de l'imaginaire, paru chez Libère, votre dernier livre, vous réglez des comptes. Bonjour Michel Maffezoli.
Bonjour cher ami.
D'un côté, les réseaux sociaux au service du crime parfait. De l'autre, un homme qui écoute l'herbe pousser. Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseillet, sur France Inter.
Elsa Marpeau, il faut d'abord expliquer ce que votre livre, Son autre mort, tout un programme, a de si particulier. Alors vous allez voir, Michel Maffezoli, ça va vous parler, parce que le personnage principal est une femme nommée Alex, qui tient, jusque-là, tout a l'air simple, une chambre d'hôte de charme, et elle reçoit un jour un client un peu particulier, qui n'est autre qu'un grand écrivain, macho, misogyne, un type un peu, on sait pas très bien qui c'est, mais enfin, c'est un type un peu paillard, un peu truculent, qui s'appelle Charles Berryer. Et que se passe-t-il?
Alors, je rajoute au fait qu'il est un peu macho, etc., que c'est un auteur sublime, qu'elle adore, qui a une prose absolument magnifique. Et que se passe-t-il? Alex, donc elle a un petit souci, c'est que elle est phobique sociale, donc elle a très très peur des autres, et on organise son anniversaire, donc c'est 40 ans. Et cette nuit-là, Charles Berryer va essayer, à la faveur de la nuit, de la violer.
Il essaie de la violer, donc le jour de ses 40 ans, à la chambre d'hôte, dont il est le pensionnaire.
Voilà, exactement.
D'accord. Et là, et que se passe-t-il? Et là, elle le tue.
Elle le tue pour se défendre. Hein. Bon, ouais, voilà, ouais. On est en état de légitime défense, mais aussi dans une sorte de crise de folie. Et s'ouvre à elle un dilemme. Est-ce qu'elle doit se rendre à la police, expliquer ce qui s'est passé? Mais elle a des antécédents psychiatriques qui risquent de jouer en sa défaveur. Ouais. Elle a aussi deux enfants, donc elle ne voudrait pas risquer la prison.
Sa vie serait brisée.
Serait complètement brisée, oui. Celle de ses enfants aussi. Et donc, l'autre possibilité pour elle, c'est de trouver à Charles Berryer une autre vie, une autre mort. Ailleurs, c'est ce qu'elle va faire.
Et elle invente, et c'est là où ça devient génial, elle invente la survie de Charles Berryer dans les réseaux sociaux. Et donc, elle s'empare du compte Twitter, Instagram, Facebook de Charles Berryer, et elle le fait exister pendant des mois, jusqu'au moment, je veux pas tout raconter, mais jusqu'au moment où elle va elle-même programmer la mort de Charles Berryer, parce que sur les réseaux sociaux, finalement, la mort et la vie s'entrecroisent. Michel Maffezoli, ce qui est frappant sur les réseaux sociaux, c'est qu'on voit par exemple des comptes de gens qui sont morts et qui durent pendant des années comme s'ils étaient encore vivants, parfois animés par la famille, parfois animés par des fans, ou parfois juste oubliés. Et celui qui tenait ce compte, en quelque sorte, cesse de l'alimenter, mais il est là, éternellement dans le web. Qu'est-ce que ça vous dit, Michel Maffezoli? Facebook, Instagram, Twitter, ça permet de vaincre la mort?
Vous savez, j'ai comparé ces réseaux à la communion des saints, ce que l'on enseigne dans le catéchisme, et je dis que les tribus, les réseaux sociaux, c'est la communion des saints postmoderne. C'est-à-dire que, en me présentant, vous avez dit un monde nouveau. Moi, je crois qu'il n'y a pas de monde nouveau. Hein. Quid novis sub sole. Vous savez, là-dessus, je pense qu'il n'y a rien de nouveau,
sous le soleil.
Mais tout simplement le retour d'un certain nombre de choses. Et ce que vous venez de dire, pour moi, c'est le retour, dans le fond, à la fois du fait que, oui, voilà, il peut y avoir un accident quelconque, une mort, et comment cacher le cadavre, ce sont les réseaux qui nous aident à cacher le cadavre.
Oui, mais là, dans le cas de Elsa Marpeau, votre héroïne, c'est quand même une criminelle. Vous faites de la criminelle l'héroïne du roman noir.
Tout à fait. Bon, je suis pas la première. Hein. Effectivement, c'est un peu dans la lignée de Patricia Highsmith, de Tom Ripley, quoi. Mais on a envie, je crois quand même, hein, que cette fille s'en sorte et d'être avec elle.
Elle est donc dans la transgression. Et où finalement, est-ce qu'on risque pas, Michel Maffesoli, de perdre ses repères quand on va dans le monde virtuel? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de toute puissance qui fait qu'on voit des dérapages épouvantables, des cinglés en tout genre? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là?
Je pense que ça signe le fait, et là aussi c'est un de mes dadas, qu'on assiste à la fin de la morale. La morale était par principe général, applicable en tout lieu et en tout temps. C'est ce qui naît à partir du XVIIIe siècle, les droits de l'homme. Et que, on emploie des mots souvent l'un pour l'autre. Moi, je considère qu'il y a le retour des éthiques particulières. Non plus la morale générale, mais l'éthique. Éthique, ethos, en grec, c'est ce qui fait ciment. Et donc, de fait, il y a sur les réseaux sociaux, ben oui, des groupes, des tribus, si je reprends ma métaphore, qui ne se reconnaissent plus dans la grande morale du devoir-être, mais qui essaient de s'accorder avec l'autre. Et tout le problème, qui est un problème, je dirais, anthropologique et la plus sociologique, c'est de voir comment ces diverses tribus vont s'ajuster dans la mosaïque, en quelque sorte, sociétale, qui est en gestation.
En quelque sorte, des morales différentes ou des éthiques différentes.
Moi, je dis des éthiques différentes. Hein, c'est-à-dire, je m'étais amusé juste un petit mot en montrant que la mafia n'avait pas de morale, elle avait une éthique. Par exemple.
C'est vrai, c'est vrai que la mafia a une éthique, voilà. Absolument. Mais d'ailleurs, vous parlez, je crois, à propos de votre livre, de roman amoral, Elsa Marpeau.
Donc, complètement. Bon, après, je pense que la littérature n'a pas à être morale ou pas. C'est vrai que ce dont vous parlez, c'est la mort de la morale, en fait. S'il y a plein d'éthique, bah, il n'y a plus de morale. Donc, effectivement, le personnage est exactement dans ces eaux un peu troubles.
Alors, il y a eu récemment une pénible affaire, c'est celle du blogueur et chroniqueur Mehdi Meklat, qui s'était littéralement construit une sorte de double maléfique sur Twitter. Et ce compte fantôme dans lequel transparaissait la haine, la violence, le racisme, etc., a provoqué la chute de Mehdi Meklat. Elsa Marpeau, si j'ai bien lu Presse Océan le 19 avril, vous dites que vous vous êtes inspirée de Mehdi Meklat pour écrire son autre mort, c'est ça?
Oui. Ce que j'ai trouvé très fort, c'est cette invention pour lui du double maléfique, puisqu'il s'est défendu, c'était sa première défense, dire mais c'était pas moi en fait, c'était mon double maléfique. Et ça, bah voilà, ça inspire.
Ça inspire évidemment votre personnage voilà, qui tout à coup laisse émerger son double maléfique pour justement bâtir une seconde vie à sa propre victime. Michel Maffesoli, le problème dans Twitter, par exemple, c'est cette forme d'impulsivité, c'est-à-dire que là, nous parlons sur France Inter, j'imagine qu'il y a des gens sur Twitter qui vont aller comme ça, de façon impulsive, soit dire j'adore, ou je vais, avec une espèce de d'immédiateté terrible, parce qu'on peut être évidemment après la victime d'attaques, voire d'agressions verbales ou physiques. Vous avez été beaucoup attaqué, par exemple.
C'est vrai?
Je sais pas, moi. Moi, je vous ai pas attaqué, moi, en tout cas.
Bon, oui, mais dans le fond, ce double, ça rejoue quelque chose qui me paraît être en jeu, c'est-à-dire l'idée de Rimbaud. Je est un autre. Et cette conception rimbaldienne, je dirais, du monde est pour moi un des éléments de la postmodernité. On n'est pas un. On est plusieurs, hein, personne, on n'a pas un individu, mais une personne plurielle, on a des masques divers. Et personnellement, moi, je considère que c'est bon que cela sorte, ces impulsivités, si on reprend le terme que vous venez d'employer. C'est un peu à la manière aristotélicienne, hein. Il montre qu'il y a la catharsis, il faut que ça sorte. Et d'une certaine manière, c'est très bon que ça sorte, ça. Ces trucs-là.
Mais c'est bon que ça sorte, c'est bon que les gens s'expriment, et c'est bon la liberté d'expression. Mais c'est vrai que quand c'est de la haine qui sort, et que cette haine s'en prend aux autres, enfin, c'est toujours agréable de se laisser aller à la colère quand c'est vous qui êtes en colère. Mais quand vous êtes en face, c'est difficile. Quand Mehdi Meklat tient des propos complètement cinglés, délirants, nazis, c'est toujours un peu, c'est très inquiétant quand même. Qu'est-ce que ça traduit?
Bon, moi, ça m'inquiète pas. Pas les propos, je les connais pas en la matière, mais puisque vous avez dit que j'étais souvent attaqué, eh bien, ces attaques m'ont laissé indifférent. C'était une manière, encore une fois, qu'avaient ces chers sociologues de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes analyses. Non, je sais que c'est un peu scandaleux ce que je dis, mais je considère qu'il est bon que tout soit dit. Et que toute règle actuellement un peu dangereuse, dans le fond, de réguler en quelque sorte les réseaux sociaux, ne pourront qu'en avoir un effet pervers. En termes savants, ça s'appelle une hétérotélie. hein, c'est-à-dire un but autre que celui auquel on s'attendait, alors que je reviens, la belle idée aristotélicienne, c'est-à-dire il y a une part
d'ombre. C'est voltairien, vous êtes un voltairien, on pourrait dire.
Je suis aristotélicien ou thomiste, hein, c'est-à-dire que il faut être réaliste. Réaliste, c'est-à-dire que la part d'ombre nous anime. La part maudite, la part du diable, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La part du diable », montrant qu'il faut que ça sorte.
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusques en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de germain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, achetant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Le bel hommage que Serge Gainsbourg rendait en 1968 à Brigitte Bardot, un titre culte, c'était Initial Bébé.
Vous avez dit.
Ah non,
vous m'avez rien dit.
Bah, c'est vous qui me l'avez dit.
Le vrai problème, c'est qu'il y a ce désaccord entre les élites et le peuple. Fondamentalement, dans l'esprit de ces gens, le peuple pue du cul.
Le peuple pue du cul, c'est un petit peu violent, ça, Michel Maffezoli. Non, pour un penseur tel que vous, je trouve.
Bon, j'ai dit tout à l'heure que j'étais thomiste, hein. Saint Thomas d'Aquin, c'est revenir aux choses réelles, le réalisme. Donc, en proposant cette formule, elle est un peu disgracieuse.
Je précise que c'était sur Sud Radio en mars dernier.
Bon, elle est un peu disgracieuse, mais disons que le peuple a des odeurs que l'élite ne veut pas écouter, ne veut pas reconnaître, et du coup, on parle de populisme. En ce sens, ces démocrates sont peu démophiles. Voilà mon sentiment.
Alors, vous êtes beaucoup exprimé, c'était peut-être le sens de ce que vous disiez à ce moment-là, à propos des gilets jaunes.
Oui, oui.
Vous êtes un gilet jaune, Michel Maffezoli?
Non, c'est pas mon genre, à titre personnel. En même temps, pour les raisons que vous venez de dire, oui, je suis attentif aux soulèvements, aux révoltes multiples qui sont un peu partout de par le monde, et pour le meilleur et pour le pire, hein, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Italie, que ce soit la Hongrie, etc. Tout simplement, cela traduit au fait que, justement, cette élite, nous, hein, vous, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, journalistes, experts, universitaires, politiques, ne sont plus en phase avec ce qui est vécu. Ils restent sur cette vieille idée morale, justement, du XVIIIe siècle, les Lumières. Aufklärung. Ces lumières sont devenues clignotantes. Et de fait, on continue à tenir des discours qui ne sont plus en phase. Et de temps en temps, le peuple se révolte.
Alors, il y a un monde nouveau, hein, c'est vrai. Il y a un monde que vous appelez vous ancien, mais enfin, qui est un monde quand même tout à fait nouveau qui se dessine. Mais il me semble que, lorsque on se réfère au peuple contre les élites, est-ce que c'est pas un peu un lieu commun du populisme?
Oui. D'ailleurs, vous venez d'employer le mot populisme. Comme on dit communautarisme. Ça, c'est, je dirais, c'est l'attitude franchouillarde bien caractéristique, hein. C'est-à-dire que
Merci, je
vous en prie. Nous en sommes de cette France aimée. Mais il n'en reste pas moins qu'on est resté sur une vieille conception 18e-iste de la République une et indivisible. Moi, je suis beaucoup plus attentif à la mosaïque, à la res publica, à la chose publique à partir de la diversité. Et donc, c'est parce qu'on ne sait pas prendre en compte le retour de l'idéal communautaire qu'il y a cette stigmatisation de populisme, etc. Moi, je crois à la sagesse populaire. Voilà, peut-être parce que je suis un fils du peuple.
Elsa Marpeau, vous n'avez pas encore fait de livre sur les gilets jaunes, ça, j'attends le roman hein, sur les gilets jaunes. En revanche, vous avez écrit sur les soulèvements, vous avez écrit notamment un livre, je me souviens, où vous racontiez un personnage qui allait parmi les Black Blocs, ça s'appelait d'ailleurs Black Bloc en 2012. Ouais. Pourquoi vous avez envie aussi de vous frotter à ces surgissements populaires, ces éruptions dont parle Michel Maffezoli?
Ah bah oui, moi c'est pareil, je juge absolument pas, je suis pas ni Black Bloc ni Gilet jaune, mais effectivement, bon, je veux dire, à partir du moment où on est démocrate, faut bien accepter que tout ça existe, et si on dit que
vous prenez pas position, vous, hein, vous êtes plutôt...
Je suis auteur, donc en tant qu'auteur, je prends pas position.
Il y a des auteurs engagés, hein, excusez-moi.
Oui, mais moi, ça m'emmerde beaucoup.
Il y a des auteurs qui se mobilisent, qui signent des pétitions, oui. Vous, non.
Non, je trouve que la moindre des politesses, quand même, c'est de le faire discrètement. Et je vois pas en quoi être auteur me donnerait un droit quelconque sur penser la société. Après, des livres qui pensent vraiment, qui montrent plutôt que qui donnent à penser, ça me semble beaucoup plus utile. Donc, je trouve que la littérature, c'est montrer des points de vue différents. Donc, effectivement, autant celui du flic, par exemple, que du type qui va casser les vitrines.
Et puis, vous avez une espèce de souplesse, d'élasticité morale, hein, qui fait que, les criminels, après tout, on les comprend. Rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir, et ça va dans le sens de ce que dit Michel Maffezoli. Faites-vous, Michel, vous bataillez en permanence contre ce que vous appelez la langue de bois.
Je bataille contre justement l'attitude judicative et normative, qui est très souvent l'attitude, en tout cas je vois, de mes chers collègues universitaires qui disent ce que doit être le monde. Moi, je m'emploie à dire ce qu'il est. Je ne donne pas mes convictions. Hein. Je peux avoir une morale à titre personnel, je suis un homme rationnel, producteur, reproducteur, etc. Et tout ce que je décris, ce n'est pas exactement ce que j'analyse, vous voyez. Donc, moi, je trouve important de se purger, là aussi, de l'attitude judicative, tout simplement, parce qu'en effet, la part d'ombre nous anime. Hein. Il y a bataille, parler de la part maudite, Hans Bloch, de l'instant obscur. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle la part du diable, hein, c'est-à-dire quelque chose qui nous constitue aussi, le criminalité, et que l'on est... C'est amusant de voir la fascination qu'il y a eu pour Mesrine, par exemple.
Oui,
c'était un indice pour moi intéressant. Ça montre bien que il y a dans la sagesse populaire une, non pas la canonisation de ces actes, mais une forme de compréhension.
Compréhension pour ça. Vous avez une question à poser à Michel Maffezoli, Elsa Marpeau. Alors la question que vous m'avez transmise, c'est presque une question pour l'oral de licence.
Hein.
Alors je vous laisse la lui donner, mais Michel vous répondrait peut-être de façon assez brève,
oui,
parce que sinon on est foutu.
Non, mais excusez-moi.
Alors je voulais que peut-être vous pouvez la réinventer en direct.
Mon côté ancien universitaire. Donc quels sont pour vous, s'il y en a, les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires qui structure la société?
Oui, moi je crois au changement d'imaginaire, c'est peut-être ce qui est le fondement de cette postmodernité naissante. L'imaginaire, vous savez, je reprends ici l'expression d'un philosophe espagnol, je vais être bref, Ortega y Gasset, il dit c'est un impératif atmosphérique, hein, c'est-à-dire on est pris dans une atmosphère. Et les changements, ben voilà, pour moi, je dois avouer, c'est les tribus, hein, le retour de ce que je préfère dire idéal communautaire, plutôt de communautarisme, c'est le retour du nomadisme, c'est-à-dire le fait qu'on n'a plus une assignation à résidence sexuelle, professionnelle, idéologique, mais qu'il y a une fluidité, quelque chose qui est en gestation, en devenir.
On parlait des gilets jaunes, on en a beaucoup parlé évidemment en 2019. Oui. Vous diriez, il y a une tribu jaune.
Il y a des tribus de gilets jaunes. Moi, je suis allé quand même sur les ronds-points. Oui, oui. Et bien sûr que je vois combien tous mes collègues, tous les intellectuels, les journalistes les méprisent un peu, parce que c'est une conversation du café du commerce, très souvent. Et il n'en reste pas moins que, à côté de cela, en même temps, il y a ça et ça. À côté
et
de cela,
en même temps.
En même temps, comme dirait l'autre. Et donc, il y a des formes de solidarité, des formes de générosité, des amitiés, des mariages qui se font, vous voyez, etc. Alors, c'est en ce sens que je dis, voilà, on n'est pas un, on est pluriel, et que ce jeu est un autre rimbaldien, moi, me paraît important.
Alors, Michel Maffezoli, alors là, j'ai les yeux bandés, je ne sais pas où je vais. Vous avez une question pour Elsa Marpeau, mais je ne sais pas laquelle.
Non, pas une question, c'est de reconnaître au travers de ce que je viens d'entendre cette réflexion sur le labyrinthe du vécu, hein, dans le fond. Et l'idée du labyrinthe, ça me paraît important. Et le paradoxe, c'est que vous utilisez à cet égard les réseaux sociaux, Internet. Pour moi, la définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. L'archaïque, c'est cette capacité de tuer, cette capacité de ne pas être dans l'ordre des choses.
Ou d'aimer,
etc. Et que cela trouve l'aide du développement technologique. C'est fascinant de voir que, en fait, vous recréez une autre mort à ce personnage. Une autre vie. Voilà, c'est typiquement quelque chose qui me paraît être cette synergie que je viens de dire. Voilà, votre attitude est postmoderne.
Et alors, la question, c'était quoi la question?
Ben ça.
C'était la question, ça.
Alors, je vais répondre à cette non-question. Effectivement, ça s'inspire des théories de Naomi Klein, de la théorie du choc, qui est que pour faire croire une population, enfin pour la faire obéir, il faut créer des chocs. Et effectivement, la technologie permet de créer ces chocs. Donc là, le personnage, pour faire exister Charles Berryer, donc l'homme qu'elle a tué, il va créer des chocs, va lui faire dire des horreurs absolument, et donc du coup créer une sorte de lumière sur ces horreurs qui font qu'on va plus penser à sa vie ou à sa mort, mais juste au choc. À ce scandale.
Alors justement,
fait.
Michel Maffezoli, il aime bien dire des horreurs. Oh. Est-ce que ça serait un peu votre personnage, Charles Berryer? Est-ce qu'il est face à vous?
J'aurais dit que peut-être, mais je me reconnais aussi dans Charles Berryer.
Enough when the going is tough. I wait till it falls on deaf ears. Without the boundaries of love, my take is I wish there was a better way.
I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, went in the pen every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, went in the pen every letter you send.
I've been listening to dreamy days, in disarray. I realize it's everybody else who's still astray. I feel ashamed, I know there ain't no saving away. They went astray, I went Australia. So what I'm supposed to say to them? When all this love's out of range, everything around me changed, I'm supposed to stay the same. Turned down these free drinks I couldn't even name. And that, like all this money, isn't fucking up my brain. I've been going insane. Shell full of family remains, broken hearted, seeking none of them again. I pull the glass, stick my head out in the rain, try and find another person I can blame. Sat up on this plane, and yo, I'm praying that we don't crash. Cause every night I shiver at the sight when we go back. Cause every night could be my last, and yeah, I know that. So I crack a smile for it goes black. Trust. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, when wet in the pen, every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, when wet in the pen, every letter you suss. I wish you'd been it when my dad had died. I wish you'd been it when my mother cried.
I wish you'd been there in the dragon night to see my side. Look me in my eyes when I was paralyzed and tell me everything's alright and push it to the side. It's just a sacrifice. At times I told a bag of lies, but not a pack of lies with yours. Told a couple ones, of course. It was true, you only knew me from the dramatized. I feel an agonizing risk, cause in a thousand islands, this is where I really wanna be when we were cracking wise. Cause it was black and white, literally black and white. White from my mother and my father was the blackest skies. Skies, I can see it's true. I see my mother up in you. Shit, I think my dad would see it too. Yeah, I just wish he knew.
À ma gauche, le rappeur britannique Loyal Carner. À ma droite, la chanteuse de R&B Georgia Smith. Il n'allait évidemment pas faire un disque d'accordéon. C'était donc Loose Ends dans Estivalitude sur France Inter. Alors mes invités ce matin sont Elsa Marpeau et Michel Maffezoli. Et on en vient maintenant à une petite séquence que j'aime particulièrement dans l'émission. C'est quand je demande à mes invités le son qui les résume. Et donc Michel Maffezoli, le son qui vous résume, c'est ça.
Ah, on en redemande, hein. C'est le bonheur absolu. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est, Michel Maffezoli? Juste un mot.
Le vent.
Le vent. C'est, pour être précis, c'est le bruit du vent. Avec Juliette Medeviel, on a bossé, hein. C'est le bruit du vent dans la montagne. Voilà. Sachez-le, Michel Maffezoli. Donc là, un bruit totalement bucolique. Alors, ce qui est assez curieux, Elsa Marpeau, c'est que le son qui vous résume, ça se passe aussi dans la montagne. Hein, c'est aussi la montagne. Mais c'est pas le bruit du vent. On écoute ce qui se passe pour vous dans la montagne.
Here's Johnny.
Alors je sais, c'est le matin sur France Inter, je vais encore me faire gronder, mais enfin, il faut dire que c'est le son qui vous résume, Elsa Marpeau. Qu'est-ce que c'est ?
C'est Shining.
Le film Shining, c'est le film de Stanley Kubrick.
Voilà, exactement.
Mais donc pourquoi ?
Ah, pour tout, pour cet écrivain auquel on peut tous s'identifier, qui, victime de la page blanche, devient petit à petit...
Jack Nicholson dans le film.
Devient fou au fur et à mesure, qui supporte plus cette famille nucléaire comme ça, et qui explose finalement. Et donc ça, oui, moi ça me résume complètement, au sens où c'est un personnage amoral, comme vous l'avez dit.
Comme vous ?
Très certainement, en tout cas mon personnage d'auteur.
Ah bah dans votre livre, c'est très clair. Oui,
voilà,
bien sûr.
Tous les personnages. Voilà, pour Stephen King, dont j'aime énormément ce livre spécifique, puisque ça parle d'écriture, de famille, d'amour.
Alors il y a une influence majeure pour vous, alors moi je n'avais pas lu ces livres, alors c'est honte à moi, c'est la romancière Patricia MacDonald. Alors j'ai lu que vous aviez adapté certains de ses livres, alors Patricia MacDonald, on se souvient d'Un coupable trop parfait, ou J'ai épousé un inconnu, ou d'autres livres. Il y a un vrai intérêt de votre part pour cette écrivain américaine ou pas ?
Alors, j'aime beaucoup la femme que je connais. Et alors, c'est différent parce que c'est des adaptations. Donc, je ne peux pas dire du tout que c'est une influence. Absolument pas. En revanche, c'est très intéressant pour l'adaptateur parce que c'est des romans très, très bien structurés. Qui ont pour moi une sorte de blanc qui sont les personnages dans lequel l'adaptateur peut s'infiltrer.
Alors si vous êtes surtout Elsa la créatrice d'une série réalisée par José Dayan avec Corinne Maziero qui est diffusée sur France 3 depuis 2015 qui est Captain Marlowe. J'aimerais bien qu'on écoute une sorte de petit medley de Capitaine Marlowe.
Allez, à gauche tout il a dit Jésus. Ah bah l'exploitation dans les Émirats.
Tu sais quoi ? Le monde n'appartient pas à ceux qui ont droit de veto, mais à ceux qui désobéissent.
Vous faites pas des tarifs pour les fonctionnaires, les intermittents, les précaires, tout ça.
Et comme dit le grand Didier Super, les taulards c'est comme les flics, il y en a des biens.
On choque pas que les pauvres, hein, les riches aussi.
Waouh ! Les patrons voyous, par exemple.
Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pue SF ici.
Nous aussi, on peut arracher les chemises quand on veut.
Ça fait plaisir de voir que les gens sont toujours solidaires et debout, hein ?
Et alors ? Tu crois tout ce qu'on te dit, toi ? Tu crois à la 5ème République aussi ?
Bon, on n'est pas bien payé, faut bien qu'on rigole. Hein.
C'est quoi, Elsa Marpeau, l'idée du capitaine Marlowe? J'allais dire du capitaine Marpeau, hein, vous notez. Hein.
C'est ça. C'est alors, au départ, c'était l'idée d'un capitaine qui avançait par des tours, c'est-à-dire qu'on pensait un petit peu idiote, hein, si on veut, et qui en fait, petit à petit, arrivait, voilà, pas du tout en ligne droite, en posant des vraies questions, mais vraiment en encerclant petit à petit, en endormant sa victime, voilà. Et puis aussi, bah, cette liberté, hein, d'une femme qui n'est pas définie en télévision, ce qui est assez rare, par son statut familial et par l'amour. Parce que la plupart des femmes, flics notamment, sont définies par le fait qu'elles ont des enfants, donc c'est un problème pour aller les chercher à la crèche, pour etc., et par l'amour. Bon, Marlowe, pas du tout. Comme elle dit, elle ne couche que le premier soir, donc effectivement, l'amour, c'est très différent. Et elle a cette liberté de dire absolument tout ce qu'elle veut, que la comédienne, dont la comédienne s'est emparée très très fort, et que France 3 nous laisse étrangement réaliser.
Michel Maffezoli, ce dont parle Elsa Marpeau, c'est à travers le capitaine Marlowe, c'est cette révolution des femmes qui a l'air d'être en cours en ce moment. Il y a quelque chose de très profond qui se passe dans la société. Comment vous interprétez cette montée, on pourrait dire, du féminisme ou cette révolution des femmes?
Puisqu'on parlait tout à l'heure de l'imaginaire, j'ai eu pour maître Gilbert Durand, un anthropologue, qui disait qu'il y avait des grands moments où dominait le régime diurne de l'imaginaire, caractérisé par le glaive, caractérisé par le phallus dressé, caractérisé par le soc de la charrue, et d'autres moments où il y avait le régime nocturne de l'imaginaire, c'était la coupe. Et moi j'ai traduit cela en disant, voilà ma réponse, ce qui est en jeu actuellement, c'est une espèce d'invagination du sens. C'est-à-dire non plus un sens lointain qui est purement spermatique, logos spermaticos, si vous voulez, qui a caractérisé la modernité, mais au contraire, quelque chose qui revient au trou, au vagin, au creux. Et voilà, si vous voulez, comment je pourrais réagir, puisque vous me demandez de réagir. Mais ce n'est pas une attitude qui est très morale. Hein. Vous avez bien compris que le moralisme, pour moi, est dangereux. Ouais. Et je considère, pour reprendre un oxymore, que ce qui est en jeu actuellement, c'est un immoralisme éthique. Hein, c'est-à-dire, il n'y a plus de reconnaissance dans une morale générale, et puis il n'y reste pas moins qu'il y a des formes d'éthique. Alors voilà, c'est ça la vraie pensée rebelle. C'est ça ce qui peut choquer beaucoup, mais qui, à mon avis, est en accord avec la liberté de penser.
Parce que Elsa Marpeau, vous êtes, c'est important pour vous le fait que vous soyez une femme dans votre travail, et vous dites d'ailleurs de la série noire dans laquelle vous avez la chance d'être, vous dites chez Gallimard, vous dites que c'est un monde d'hommes.
Bon, ça l'a été, oui, beaucoup, oui, non, bah oui, bien
ça bouge,
sûr.
Ça bouge.
Oui, oui, non, bah si, on est à peu près deux filles pour 15 auteurs français.
Deux filles sur 15, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Si on regarde les prix, alors là, c'est carrément catastrophique. Bon, il y a vraiment quand même une différence encore, mais surtout, alors, moi, je voudrais revenir sur l'idée de fluidité. Moi, je crois plutôt à l'idée de fluidité, c'est-à-dire je trouve que le genre, c'est vraiment bon, enfin, c'est quelque chose, c'est une trousse à outils, bon, très bien. Moi, j'estime que je peux y puiser ce que je veux, autant de masculin que de féminin, et que bah, j'ai envie d'être plutôt ce qu'on appelle gender fluide. Donc,
vous êtes gender fluide?
Bah, j'estime que je prends ce que je veux dans la trousse à outils.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, Elsa Marpeau, de ce mouvement qui est justement sur les réseaux sociaux depuis quelques années, qui est MeToo, balance ton porc?
Aïe.
Un peu de mots.
Alors, est-ce que j'ai le droit de dire que je préférerais... Je sais pas. J'ai l'impression...
Comme ça, vous savez
je vais
pas.
Dire des clichés. C'est-à-dire que oui, c'est bien de libérer la parole à la fois à quelque chose qui s'appelle balance ton porc. Je préfère m'y intéresser sous le point de vue de la fiction, vraiment. Et surtout sur le point de vue de la fluidité des genres.
Michel Maffezoli, ça vous inspire quoi, balance ton porc?
Oh, pas grand-chose, sinon que, dans le fond, il rejoue une attitude très masculine, celle de la condamnation, et donc attitude judicative. Non, pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer, d'abord, et à mon sens, c'est pas quelque chose que j'ai envie de valoriser.
D'accord. L'idée, c'est que peut-être que la libération de la femme ne passe pas nécessairement par sa masculinisation?
Pour moi, ça n'a pas de sens, sa masculinisation. Si, je pense qu'il faut prendre des codes masculins, puisque c'est ceux qui sont le plus valorisés par la société aussi. Après, la façon de le faire, moi je pense qu'il faut garder un peu de second degré, toujours.
Alors Muriel Pérez, notre programmatrice, a pensé à tout. Angèle, le prodige belge, je ne sais pas si vous la connaissez, Angèle, nous offre quoi? Elle nous offre « Balance ton quoi ».
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi mots. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire en balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Aller te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
C'était Angèle, balance ton quoi.
Estivalitude sur France Inter.
Michel Maffezoli, qu'est-ce qui vous met en colère?
Pas grand-chose.
Ça m'étonne. Vous avez publié un livre qui s'appelle La force de l'imaginaire contre les bien-pensants chez Libère. Mmh. Il y a 160 pages de cris de colère.
Non, c'est pas tout à fait vrai. Il y a la moitié du livre qui est la moitié de, je dirais, tout simplement, je suis un vieux kakoshim, tu vois, un certain âge. Kakoshim, c'est quoi, hein? C'est-à-dire quand les mauvaises humeurs sortent. Et de fait, je me laisse aller à condamner, ce qui me paraît être les plagiaires.
Les plagiaires. Vous pouvez me donner des noms?
Non, c'est pas la peine. Les scientistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que le modèle de la science sociale, ce serait
les journalistes, vous dites.
Alors, les journalistes, dans le fond.
Je vais me sentir visé.
Mais bien sûr, mais.
Bah, c'est normal.
Lucas disait qu'ils ont ni objectivité, ni subjectivité. Voilà, les journalistes et les politiques. Alors voilà, je fais quelques petits schémas comme cela, mais c'est pas de la colère. Disons, c'est plutôt. Essayer de penser d'une manière courageuse. Et penser d'une manière courageuse, c'est Joseph de Metz qui disait « Le courage, c'est le cœur et la rage ». Voilà. Et donc, oui, parfois, la rage sort, et le sort dans ce livre, qui est une manière, encore une fois, oui, vous avez raison quand même, de régler des comptes, de s'en donner de nom, de rendre attentif à cette espèce de bien-pensance qui me paraît être la pire des choses, sur la base, justement, d'un moralisme, où, puisqu'on met des citations, ce que Nietzsche appelait la moraline. Voilà.
Alors, le moralisme exacerbé. Alors, Elsa Marpeau, qu'est-ce qui vous met, vous, en colère?
Alors j'aime pas beaucoup qu'on me dise quoi penser, par exemple. Donc on parlait de ça dans la littérature. Alors vraiment pas. J'aime pas quand un acteur me donne son avis sur la politique. Et ce qui me met très très en colère, hein, quand même. Bon, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Une forme de d'imposition, de domination masculine, de prise de parole, de phrases comme qu'on a entendu sur la Coupe du Monde de foot, par exemple. J'aime pas voir les femmes comme ça. Bon, bah là, c'est sûr, j'ai envie de sortir un flingue et puis de tout. Bon, même si, pardon, c'est une métaphore un petit peu masculiniste. Ça m'agace vraiment beaucoup. J'aimerais que ça m'agace pas. J'aimerais être au-dessus de ça, rigoler, etc. Mais si je lis le livre de Zemmour, là, je sais même plus comment il s'appelle, le deuxième sexe ou je sais plus quoi. Bon, là,
j'ai pas lu,
j'ai
peux
envie
pas vous dire.
De déchiqueter toutes les pages.
Ah oui, vous avez dit un ennemi masculin, on le prive de sa vie, on le tue. Une femme, on lui prend sa féminité, on la tond ou on la viole.
Oui, c'est la vérité. Bah, dans les guerres, c'est très souvent, bon, c'est ce qui s'est passé en 44. Hein, c'est vrai que.
Alors, c'est un livre que vous avez fait, qui était formidable, qui s'appelait Et ils oublieront la colère, donc encore un roman noir, qui se passait, enfin, c'était le souvenir, la honte dans une famille liée à l'épuration. Hein, ce moment, cette phase sombre de la libération de la France. Pourquoi vous a intéressé de parler de l'épuration 1944 et 45?
Et pour ça, vraiment, pour cette idée-là que, les hommes convaincus d'épuration, on les tuait, on les fusillait, les femmes, on les tondait. Donc je trouvais ça très intéressant, que l'homme, on lui supprime en fait sa faculté de penser, sa faculté de vivre. La femme, on lui fait une punition symbolique, donc dans un sens
au moins,
beaucoup moins grave.
Pas, on pourrait
exactement,
dire.
Je ne dis pas du tout que c'est évidemment moins grave au regard de la médecine notamment, mais c'est une punition symbolique, donc on s'attaque à son corps. Et ce qui m'a fait écrire ce livre, c'est une image d'archive où on voit un homme sur un char avec deux femmes tendues et qui voit une caméra et qui, en voyant la caméra, s'illumine et se met à caresser les deux crânes tendus des femmes.
Et ça, pour vous, c'est le comble de l'abjection?
Non, je trouve ça intéressant pour la littérature, je trouve ça intéressant comme sujet.
Michel Maffezoli, l'épuration, c'est un thème que vous auriez pu traiter?
Non, je connais pas bien ce qui se passait. Je suis pas historien comme vous, hein, donc d'une certaine manière, je ne sais pas si je m'intéresse davantage aux histoires. J'ai lu Abellio, j'ai lu beaucoup d'auteurs qui justement étaient menacés par l'épuration. Moi, je considère que l'attitude humaine ou ce que nous sommes, je le dis depuis tout à l'heure, ben on est ceci et cela, et que l'oxymore fait que pendant la guerre, il y en a qui ont fait le choix de la résistance, d'autres qui ont fait d'autres choix. Si je prends Gilbert Durand et Abellio, voilà des différences. Donc moi, me gêne toujours...
Gilbert Durand résistant, Abellio collaborateur.
Voilà. Et d'une certaine manière, tout ce qui est de l'ordre de la purification me fait peur. Voilà, si j'avais quelque chose à dire là-dessus.
Alors, Elsa Marpeau, vous qui êtes amorale, j'aimerais que vous nous racontiez brièvement une histoire extraordinaire que j'ai appris sur vous. Racontez-nous ce qui vous est arrivé lorsque, très jeune, vous avez répondu à une petite annonce à caractère sexuel.
Alors, bon, à caractère sexuel, en n'exagérant rien, j'ai répondu à une petite annonce matrimoniale du Nouvel Obs, dans la rubrique Méli Mélo, pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a longtemps, d'un homme qui disait être universitaire de la quarantaine et qui cherchait une jeune fille, style Lolita ou Louise Brooks. Alors Louise Brooks, j'ignorais qui elle était, j'avais 16 ans. Lolita, je me suis dit, elle est jeune, moi aussi, parfait. Et j'ai répondu à cette petite annonce et...
Vous étiez une vraie Lolita, pour le coup, hein. Vous étiez mineure.
Oui, juste pour mon âge, hein, parce que j'étais pas avec des petites lunettes de soleil en cœur, etc. J'étais une petite fille bien sérieuse, je vivais à Nantes et à partir de là, mes parents m'ont payé des vacances. Toutes mes vacances, dans un hôtel rue de la Gaîté. Les pauvres ne savaient pas ce qui se passait rue de la Gaîté. Et je partais seule retrouver cet homme qui avait 49 ans et qui aujourd'hui en a 73.
Et c'est une vraie histoire d'amour?
Non. J'ai du mal aujourd'hui, hein, j'ai des filles de 15 ans, j'ai du mal à comprendre ce qui moi-même m'animait, juste le fait de partir, d'avoir une aventure, donc pas au sens sexuel justement, mais au sens qu'il allait enfin
romantique,
m'arriver quelque chose.
Romantique.
Quoi.
Alors, et cet non homme plus. A été votre Pygmalion?
J'aimerais.
Je veux dire par là que
après
c'est
avoir
lui
défendu
qui...
le féminisme, je vais pas dire ça, mais par contre, il a. Et oui, c'est vrai. Il m'a dit bon, écoute, hein, maintenant, il faut arrêter tes bêtises. Ça va bien à l'école, donc il va falloir faire une prépa à Louis le Grand ou à Henri IV. Je savais pas ce que c'était.
C'était
après,
comme un père de substitution pour vous alors.
Bah, j'avais un père, hein, donc ils se sont rencontrés tous les deux, puis ils ont discuté de mes études.
C'est très étrange.
Et c'était quelqu'un.
Alors, pardon de vous poser cette question, mais c'était quelqu'un de connu.
Oui, plus ou moins, oui. C'est un intellectuel non connu, ce serait beaucoup dire. C'est un fan de Cioran qui dirigeait les PUF.
À cette époque-là. Et combien, combien de temps a duré votre, votre relation?
2-3 ans. Ah oui, jusqu'à ma prépa, jusqu'à ce qu'en fait, il publie un livre où il parle de Elsa, 16 ans Nantes, et où il invente des choses. Et là, je me suis retrouvée personnage d'un livre que j'ai trouvé assez médiocre, par ailleurs. Et là, j'ai été quand même un petit peu agacée. Donc là, on a cessé nos, nos relations.
Tu veux que je te raconte un souvenir?
Un souvenir, ah oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors, c'est le moment dans l'émission important où vous nous racontez votre principal ou le plus important souvenir de vacances, celui qui vous a le plus marqué. Michel Maffezoli, votre souvenir de vacances, qu'est-ce qui s'est passé pour vous un jour en vacances?
Alors, moi, en vacances, d'abord, je suis toujours en vacances puisque...
Oui, vous faites rien dans la vie.
L'universitaire, la, la scolée, c'est aussi le loisir studieux. Donc, je ne travaille pas vraiment. Voilà. J'ai toujours dit que le travail me fatiguait. Mais par contre, la création, ça, c'est autre chose. Et donc, dans le fond, vous voyez, l'été, c'est le moment où les vacances, où je ne bois pas d'alcool, où j'essaie de faire un régime, où je marche 3 ou 4 heures par jour. Et puis, je me mets à ma table de travail et c'est là où j'écris mes livres. Je suis à 2000 mètres d'altitude. Ça
vous écrivez à 2000 mètres d'altitude.
Voilà, oui, c'est d'accord. Un chalet d'alpage qui est très haut, c'est un peu Nietzschéen, ma position. Et donc, c'est là où ça monte au cerveau et c'est là où j'écris tous mes livres. Donc voilà, mes vrais souvenirs de vacances, je pars demain je pars dans quelques jours. Et je dois avouer que c'est quelque chose que j'attends avec une grande impatience, c'est-à-dire ce moment où je vais pouvoir m'adonner à cette espèce de vice qui est le vice de l'écriture. Voilà.
D'où le son que vous nous avez fait entendre et qui vous résume, ouais. Puisque c'est le son du vent dans la montagne près de votre chalet d'altitude.
Souvenez-vous de ce que dit Anne Sylvestre, ou que j'écoutais ça quand j'étais jeune, méfie-toi qui aime le vent engendre la tempête, et que c'est à partir de ce vent qu'on peut avoir la tempête des idées, le chemin de pensée, les chemins qui ne mènent nulle part et qui en même temps essaient, en effet, d'écouter l'herbe qui pousse.
Ah, c'est beau cet éloge du vent. Et vous, Elsa Marpeau, alors les vacances les plus marquantes que vous ayez vécues, c'était quoi?
C'est mon arrivée à Singapour.
Ah bah c'est pas mal, oui.
Oui, voilà, pour y vivre, pour y suivre mon conjoint de l'époque. J'avais une petite fille de 20 jours et que j'avais dû récupérer donc toute seule. Donc je suis arrivée avec cette petite fille et je suis tombée malade. Donc il faisait 37 degrés et moi j'avais extrêmement froid. Et j'ai eu une sorte de maladie du coup très grave. Je suis rentrée en isolement et donc dans ce pays totalement inconnu, j'étais en isolement, j'avais pas de téléphone, je ne savais pas où je vivais puisque j'avais jamais vécu. Et donc c'était un mauvais début pour ce séjour.
Singapour, vous y êtes restée pendant combien d'années et pour quelles raisons? À part suivre le conjoint.
En fait, on avait décidé de partir vivre aux États-Unis, juste pour avoir une autre expérience. Et puis il y a eu une possibilité que ça soit Singapour. On s'est dit pourquoi pas. Moi, mes parents ont vécu au Laos. C'est un endroit complètement, pour nous, complètement vierge, Singapour. On voit même, ça nous
évoque absolument rien. Vous avez beaucoup
voyagé? Ah, mais alors, à partir de là, oui. Et avant, mais pas du tout. On était d'une famille, j'avais jamais pris l'avion. Enfin, on allait à la montagne, nous aussi, pendant l'été. Et c'est tout. Et tout à coup, j'ai découvert que je pouvais voyager, moi qui suis phobique sociale, que ça a été une immense découverte de me dire, je peux le faire.
Michel Maffezoli, vous êtes toujours entre deux avions. J'ai vu que vous aviez été nommé docteur honoris causa de l'université de Mexico, entre autres, mais vous êtes toujours, vous avez fait le tour du monde combien de fois?
Alors souvent, je passe les 2/3 de mon temps en effet au Brésil, en Corée, au Mexique, et je me régale.
Et pourquoi? Beaucoup. Pourquoi ces voyages?
J'ai fait dans ma carrière, au-delà des thèses que l'on me reproche, j'ai fait soutenir 200 thèses. Oui. Beaucoup de mes étudiants sont maintenant professeurs, parfois ministres dans divers de ces pays. Et ils ont la gentillesse de m'inviter. Ils traduisent mes livres, je vais les présenter. Voilà ce que j'appelle l'ossium, le loisir studieux.
Alors, il faut expliquer puisque vous l'avez dit vous-même, que les thèses qu'on vous reproche, c'est notamment une vieille thèse avec Elisabeth Tessier. Voilà, ça fait partie de.
Mais aussi une première thèse que j'avais. À l'époque, c'était pas de mode, qui était sur l'homosexualité. C'était pas chic.
Et on vous l'avait reproché à l'époque.
On m'avait fait reprocher de faire entrer l'homosexualité à la Sorbonne. Ouais, et 20 ans après, c'était l'astrologie moi, je suis un mécréant absolu en astrologie ou en d'autres domaines, mais il me paraissait important de rendre attentif au fait que 50% des Français consultent chez le coiffeur ou dans les salles d'attente.
Mais c'est votre force, d'ailleurs, d'avoir travaillé dans votre domaine de la sociologie sur l'astrologie, la techno, les rêves parties, l'homosexualité, des thèmes à une époque où ça ne se faisait pas, des thèmes finalement du quotidien que vous êtes allé observer. On vous l'a reproché, mais au fond, c'était aussi une démarche intéressante.
J'ai créé le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, et je suis weberien, c'est-à-dire être à la hauteur du quotidien, c'est souvent très bas. Le quotidien. Voilà, il faut accepter ce bas, puisque c'est à partir de là qu'il y a de l'induction. Hein, c'est-à-dire que c'est à partir du sensible qu'on arrive à la pensée.
Eh bien, merci beaucoup Elsa Marpeau et Michel Maffezoli. Vous avez tous deux fait preuve d'estivalitude.
Alors,
c'est vrai. Oui. Elsa Marpeau, votre livre « Son autre mort » est donc sorti chez Gallimard dans la prestigieuse série noire. Et « Capitaine Marlowe » est toujours diffusé sur France 3. Je pourrais rappeler également le téléfilm « Indiscrétion » que vous avez écrit,
absolument,
dans lequel, réalisé par José Dayan, dans lequel j'ai eu l'honneur de jouer.
Oui.
C'était un grand souvenir pour moi. Michel Maffezoli, votre dernier livre « La force de l'imaginaire » contre les bien-pensants est paru chez Libère. Et puis, je voudrais rappeler vos deux précédents livres, Être postmoderne et Écosophie, une écologie pour notre temps, tous deux parus aux éditions du Cerf. Vous pouvez bien entendu réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation, attention les yeux, est signée Juliette Medevielle. Préparation, Saad Merzak, Rebecca de Nantes, Pierre Goulencourt et Astrid Landon. À la technique, Alexandre Chenet. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain dès 9h sur France Inter. Et juste après le flash, vous retrouverez Laurent Delmas pour Ciné qui chante. Messieurs, dames, à demain.